Rennes dans les années 40. Jean a 20 ans lorsqu'il est arrêté à la gare pour distribution de tracts communistes. Pierre en a 52 lorsqu'il est accusé de mener un groupe de résistance. Anne-Marie a 22 ans lorsqu'elle est elle arrêtée pour avoir secouru un parachutiste américain au sein du réseau de résistance breton Johnny. Max, lui, il a 35 ans lorsqu'il est déporté, il est juif. La déportation, mouvement de population ciblé, contraint à l'initiative d'un pouvoir politique, a été pratiquée par le régime nazi en France de 1942 à 1944 auprès des juifs, des résistants et opposants politiques, mais aussi des tziganes, des homosexuels aussi. Selon le motif, les déportés sont envoyés en prison, dans des camps de concentration, voire d'extermination. En tout, ça représente plus de 40 000 lieux de toutes sortes disséminés à travers l'Europe, de la France à la Russie, en passant évidemment par l'Allemagne. Dans la Bretagne, à 5 départements, la déportation a concerné environ 4 000 personnes, essentiellement des hommes, résistants ou déportés politiques, et puis une minorité de personnes juives. Parmi ces déportés, 1850 trouveront la mort en Allemagne, un ratio, vous l'imaginez, qui est plus élevé si on ne parle que des juifs. Si le sujet a été maintes fois raconté, documenté, les témoins directs de cette période de l'histoire sont pour beaucoup décédés aujourd'hui. Se pose alors la question de la transmission à travers le témoignage de la génération suivante, les enfants de déportés. Et ça, c'est tout le travail d'Isabelle Le Boulanger, l'invitée du jour. Une fois le proche rentré de déportation, que se passe-t-il dans le foyer? Est-ce que certaines choses sont racontées? Quelles questions et surtout quel silence viennent hanter la famille? Quel poids ou quelle force cette histoire peut constituer pour l'enfant de déporté? Et lorsque la personne déportée ne revient pas, comment faire le deuil sans corps ni sépulture? Élément de réponse dans un instant, bienvenue dans Chercheurs en ville. Aujourd'hui dans Chercheurs en ville, émission consacrée à la recherche, on reçoit Isabelle Le Boulanger. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire contemporaine, chercheur au sein du Centre de recherche bretonne et celtique du côté de Brest, au sein du laboratoire de sciences humaines de l'UBO, l'Université de Bretagne occidentale. Votre dernier ouvrage, son titre c'est « Victimes de la répression nazie, leurs enfants parlent » et c'est paru aux éditions Cobbrez en 2021. Dans cette émission, vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et à côté de Colette, Christian Lebar pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne, professeur de sciences politiques. Bonjour Christian.
Bonjour Lucie, bonjour à tous.
Colette, je vous laisse la parole.
En France, environ 160 000 femmes et hommes ont été déportés dans les camps nazis, dont 75 000 juifs et 90 000 qui étaient résistants, otages, militants politiques, droit commun. Seulement 35 000 personnes ont survécu et sont rentrés en France. Isabelle Le Boulanger, en Bretagne, la déportation a concerné combien de personnes ?
Alors en Bretagne, si on considère les 5 départements bretons, elle a concerné 4000 personnes environ. On n'a pas de liste bien définie, mais en recoupant les sources, ça donne environ 4000 personnes, dont 500 femmes. Voilà, et environ, je dis environ, hein, toujours parce qu'on n'a pas de liste bien définie, 1850 sont décédés en terre allemande.
On sait si c'était la déportation parce que ces personnes étaient juives, parce qu'elles étaient engagées dans une action politique?
Alors, en grande majorité, ce sont des résistants et des déportés politiques. Et puis, vous avez une petite minorité de juifs et d'autres personnes, mais en règle générale, enfin en majorité, ce sont des résistants et des déportés politiques.
Depuis la libération, de nombreux livres ont traité de l'enfer concentrationnaire. On pense, ce sont des essais, des romans, des témoignages, des poèmes. On pense bien sûr aux écrits de Primo Levi, de David Rousset, de Robert Antelme, de Charlotte Delbault, de Georges Samprin, de Simone Veil, de tant d'autres. Mais vous, vous vous êtes intéressé aux enfants de déportés. Leurs parents sont morts dans les camps où ils sont rentrés, mais dans quel état? Pourquoi avoir choisi ce thème de la seconde génération?
Alors, j'ai choisi ce thème parce que ça faisait plusieurs années que je travaillais sur des thèmes en lien avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. J'avais notamment publié en 2018 « Bretonne et résistante » et à l'occasion de cet ouvrage, j'avais rencontré nombre de résistantes bretonnes. Et là, je me suis dit, on arrive à un moment charnière de l'histoire de la déportation. Moment charnière parce que les déportés ont disparu ou sont en train de disparaître. Ceux qui sont encore vivants sont trop âgés pour témoigner. Donc on arrive vraiment à un moment charnière. Les témoins directs ne peuvent plus témoigner. Or, je pense que c'est quand même particulièrement important de continuer à transmettre l'histoire de la déportation. La déportation, c'est un événement majeur du XXe siècle. Alors, comment faire de l'histoire de la déportation quand les témoins directs ne sont plus là ? Voilà, c'était ma question de départ. Et je me suis dit, mais pourquoi pas interroger leurs enfants, parce que je pensais que les enfants avaient des choses fort intéressantes à raconter. Et je ne me suis pas trompée. Voilà.
C'est un thème très original. Il y a quasiment peu de textes écrits sur ce thème. Et moi, ce qui m'a frappée, c'est la qualité et la simplicité, d'une certaine manière, des témoignages. Mais qui sont ces fils et ces filles qui ont accepté de vous parler en vous donnant leur nom, en vous donnant leur photo de famille, en vous confiant leurs souvenirs les plus intimes?
Alors, en fait, j'ai lancé un appel dans la presse, dans Ouest-France et le Télégramme, et je me suis aussi tournée vers les associations d'anciens déportés. Et très vite, des personnes se sont portées volontaires pour témoigner. Et donc, en l'espace de 2 mois, j'ai pu rassembler un panel de 37 personnes, 37 hommes et femmes. Alors, 35 d'entre eux sont des enfants de résistants et les 2 derniers sont des enfants dont le père a été fusillé en Bretagne à cause de ces faits de résistance. Voilà. Et ils se sont tous portés volontaires. Ils sont venus vers moi, en fait. Voilà.
Christian Lebar.
Oui, ce livre est vraiment formidable et incroyablement émouvant et passionnant et très facile à lire, j'allais dire très agréable à lire, disons, formule un peu malheureuse, très, très facile à lire. Ce qui est vraiment passionnant, c'est la place donnée aux enfants, en fait, qui, dans un premier temps, pour faire écho à ce que vous disiez il y a un instant, sont des sources, j'allais dire secondaires, c'est pas très heureux en parlant à une historienne, mais disons, sont ceux qui vont parler à la place des déportés, puisque les déportés, comme vous venez de le dire, sont de moins en moins en état de témoigner. Et en fait, le livre bascule, ça devient progressivement, ces enfants de déportés deviennent l'objet du livre même, c'est-à-dire qu'on voit que non seulement ils parlent à la place d'eux, mais ils racontent leur vie, ce que c'est qu'être enfant de déporté. Ce glissement m'a semblé vraiment très, très 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 heureux, très très passionnant. Mais alors du coup, sur la question du choix des interlocuteurs, j'ai une question assez classique, c'est celle de la, pour utiliser un grand mot, de la représentativité de l'échantillon ainsi construit, ou pour le dire peut-être d'une autre façon, ceux qui se sont manifestés ont probablement un rapport à la parole, à leurs parents et à leur passé, un peu différent de ceux qui ne se sont pas manifestés. Et voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de tous ceux qui sont murés dans leur silence, qui ne savent pas, qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas envie de parler? Est-ce qu'il y a un biais là?
Oui, alors effectivement, les 37 volontaires sont des enfants qui font, enfin des descendants donc de déportés et parents fusillés, qui font eux-mêmes partie d'une association. Évidemment, il y a tout un tas d'enfants d'eux, entre guillemets, qui ne se sont pas portés volontaires parce que je suppose que c'était trop douloureux pour eux. Donc les volontaires, effectivement, ont une facilité, une certaine facilité à parler de ce passé douloureux et de l'histoire de leurs parents.
Ça veut dire qu'ils en ont déjà parlé dans d'autres contextes. Est-ce qu'il y a des gens que vous avez, entre guillemets, fait parler qui n'avaient jamais parlé jusqu'à présent ?
Il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles n'avaient jamais parlé de ça, oui. Parce qu'en fait, quand ils se sont portés volontaires, ils ne savaient pas à quoi s'attendre, précisément. Et certains ont été très étonnés quand je leur ai dit « mais c'est votre parole qui m'intéresse, c'est pas spécialement le... » J'ai pas spécialement envie que vous me racontiez le parcours de votre parent. Il est connu, le parcours de votre parent. Ce qui m'intéresse, c'est vous. Certains sont dit très étonnés et ont presque eu envie d'abandonner le projet en me disant « mais moi, je n'ai rien à dire d'intéressant. C'est mon père qui est intéressant. C'est mon père qu'il faut mettre en valeur ou ma mère. Moi, je ne suis rien. » Et donc, j'ai dû faire un petit travail pour les convaincre à prendre la parole et à dévoiler leurs souvenirs d'enfance.
On sent que tout se passe autour du silence et de la parole. Et ce qui frappe d'emblée, c'est le retour des déportés dans des conditions particulièrement éprouvantes. Quand ils arrivent à Paris ou après dans leur ville et dans leur village, un des fils ou filles dit « On aurait dit des fantômes, hagards, sans cheveux, décharnés. Personne ne les reconnaissait. Ils passaient dans un silence sinistre. » Il y a ce choc visuel, l'effroi, la sidération, mais ça n'explique pas tout. J'aimerais bien que vous nous rappeliez les conditions très particulières, le contexte et l'ambiance qui prévalaient à l'époque, le retour des déportés. Et pourquoi particulièrement pour les femmes, ça a été encore plus difficile que pour les hommes ?
Alors il faut se souvenir que les déportés sont arrivés à Paris à partir du mois de mai 1945. Ils sont arrivés en mai et juin 1945. Or, les Français avaient fêté la libération en août 1944, donc 8 ou 9 mois auparavant. Et les Français, en mai 45, n'ont plus du tout envie de parler de la guerre. Ils sont en train de tourner la page, ils ont commencé à tout reconstruire, ils ont envie d'aller de l'avant et ils n'ont plus du tout envie de remuer, si je puis dire, le couteau dans la plaie. Donc les déportés arrivent dans ce contexte-là. En plus, comme vous le dites, il y a un choc visuel puisque les déportés ont perdu au moins la moitié de leur poids. Hein, c'est-à-dire que les hommes qui pesaient 75 kilos avant leur départ en pèsent 35 à leur arrivée, en moyenne. Donc on ne les reconnaît pas, même leurs parents, même les parents des déportés ne les reconnaissent pas. Je cite l'exemple d'une mère qui s'évanouit quand son fils crie « Maman !» Elle ne l'avait pas reconnue. Donc ils arrivent à Paris en mai et juin 1945. Le premier choc pour eux, c'est de devoir quitter leurs amis de déportation. C'est très dur moralement. Et puis ensuite, ils rejoignent leur famille. Et là, ils vont de déconvenu en déconvenu parce qu'ils se rendent compte que les Français sont complètement passés à autre chose et que les Français n'ont pas spécialement envie de les entendre parler. Donc, quand on leur demande ce qui leur est arrivé, il y a quand même une curiosité. Ils essayent d'expliquer. Mais là, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas crus, que l'on pense qu'ils exagèrent ou qu'ils affabulent. Et là, ils prennent réellement conscience que leur expérience de vie dans les camps dépasse complètement l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Et ils se demandent comment expliquer et avec quels mots. Il y a un problème de vocabulaire, c'est-à-dire qu'ils expliquent qu'ils ont eu très faim dans les camps. Mais on leur répond, mais nous aussi, ça se voit que tu n'étais pas là, mais sous l'occupation, tu te rends compte, il y avait des pénuries, il y avait des restrictions, on n'a pas non plus mangé à notre faim. Alors comment dire que dans les camps, c'était 10 fois, 100 fois pire? Pour le froid, c'est pareil. Mais nous aussi, nous avons eu froid. Enfin, vous voyez le problème, le décalage. Donc, au bout d'un moment, ils n'ont plus envie de parler, en fait. Hein. Ils se résignent au silence.
Il y a d'autres exemples que vous donnez qui sont très frappants. Dans un couple où c'est l'homme qui revient... Et en fait, la femme a gardé de la colère, de l'amertume. Elle a eu le sentiment que son mari résistant l'a abandonnée, elle et les enfants. Et donc ce sentiment d'abandon, t'aurais pas dû y aller, t'aurais pas dû faire ça.
Ouais.
Pour d'autres personnes, des voisins qui suggèrent, tu l'as bien cherché.
Oui.
choses ignobles à entendre. Et aussi le côté, qui m'a trahi. Et parfois, c'est des gens, évidemment, des voisins, des gens de la ville ou du village, qui m'a trahi.
Et je pense aussi à cette petite fille qui a honte de son papa, enfin qui souffre tellement de l'apparence physique de son père qu'elle ne souhaite pas trop que ses copines d'école croisent son père, devenu un peu fantôme. Quoi.
Et donc s'instaure toute une... Il y a une chape de silence dans la plupart des familles, et ça votre livre le raconte bien. Il y a un engrenage, un piège. Pourquoi est-ce que le parent déporté ne parle pas ? Pourquoi est-ce que les enfants ne posent pas de questions ?
C'est-à-dire que, oui, alors déjà au sein des familles, le dialogue est très compliqué pour les raisons que je vous indiquais. C'est qu'il y a un problème de vocabulaire. Ils ne savent pas comment expliquer ce qu'ils ont vécu. Et en plus, ils se rendent compte que leur vécu est incroyable. Comment expliquer que tous les jours, vous avez vu des dizaines et des dizaines de cadavres ? Que, au bout du compte, lors de votre séjour, vous en avez vu des milliers. Pour nous, ce sont des chiffres, mais eux ont les images en tête. Et c'est terrible. Et ça, personne, il faut l'avoir vécu pour le ressentir. Ils ont encore les odeurs. Ils ressentent fortement les odeurs du camp. Comment expliquer des odeurs ? Odeur de la chair brûlée. Comment vous voulez expliquer ça ? Même au sein de votre famille et même au sein de couples unis. Enfin, ça dépasse encore une fois l'entendement. Tout dépasse l'entendement. Comment expliquer qu'il y avait un crématorium dans le camp ? Parce qu'en 1945, personne ne le sait. Nous avons pu lire les souvenirs des uns et des autres, des écrivains que vous avez cités tout à l'heure. Mais il faut aussi se souvenir que ces écrivains, quand ils racontent leurs souvenirs en 1946, en 1947, ils sont très peu lus. Le succès va arriver surtout à partir des années 60. Donc, à la fin des années 40, on ne sait pas tout ça. Donc, c'est tellement compliqué à expliquer qu'ils se résignent au silence. Voilà.
On est donc parti pour aller en déportation. Et on était à peu près 800, à peu près, dans la prison de Jacques Cartier, hommes. Il y avait 300 à 350 femmes. Et il y avait un quartier de Marguerite, là, qui était une ancienne caserne militaire, où ils avaient mis encore des prisonniers, quoi, qui étaient à peu près aussi 300. Quoi. Alors vous voyez le convoi que ça faisait. Quoi. Et il y a eu deux trains, un le 2 et l'autre le 3 août, qui sont partis de Rennes, une à la Courrouce, à l'entrée de Rennes quand vous arrivez de Dinan, et l'autre à la Prévalet, de l'autre côté, à l'autre côté de Saint-Jacques-de-la-Lande. Alors il y a eu deux convois qui sont partis à deux jours d'écart. Et ces deux convois-là étaient partis en destination de Belfort, où il y avait un centre de dispatching, si vous voulez, pour le départ sur les camps de concentration. Et pour aller à Belfort, de Rennes, on a mis 15 jours. Alors, vous voyez, ce n'était pas du rapide. Hein. Et ce n'était pas du rapide, pourquoi ? C'est parce que les cheminots, ils essayaient, par tous les moyens, d'empêcher les convois de passer, quoi.
Extrait du témoignage de Georges Dinanet, originaire d'Alsace, aujourd'hui décédé, qui à l'époque a été condamné à mort pour espionnage et désertion.
Et puis, les déportés vont se rendre compte aussi en 1945 qu'ils sont amalgamés avec les prisonniers de guerre. On ne fait pas du tout le distinguo. Or, ça les blesse énormément parce que les prisonniers de guerre ont certes, évidemment, connu des choses difficiles, mais rien à voir avec la vie dans un camp nazi. Et pour les femmes, vous me posiez la question des femmes tout à l'heure, ça a été encore beaucoup plus compliqué que pour les hommes. C'est-à-dire que les femmes sont amalgamées aux travailleuses civiles volontaires, hein, donc aux femmes qui sont parties travailler volontairement en Allemagne.
Oui, c'était
Et ces femmes... avaient une petite, enfin une mauvaise réputation. On pensait qu'elles avaient un petit peu des mœurs légères, si vous voulez, et qu'au retour, elles étaient atteintes de maladies vénériennes. Bon, donc, les déportées femmes qui reviennent d'un camp nazi vont être amalgamées à ces femmes-là. Or, bon, elles n'ont pas vécu du tout la même chose. Il faut aussi se souvenir qu'en 1945, on estime que la résistance, c'est une affaire d'hommes. Les résistantes ne sont pas reconnues en tant que telles. Hein, il faudra attendre les années 50 pour ça. Elles ont été un tout petit pourcentage de la population. Donc, on n'a pas vraiment pris conscience de leur rôle dans la résistance et on se demande pourquoi, finalement, ces femmes ont été déportées. À quel titre ont-elles été déportées? Et puis, il y a encore un autre problème qui s'ajoute, c'est que bien souvent, il s'agit de mères de famille et il y a un reproche un petit peu tacite qui consiste à dire « mais enfin, quand même, elles ont abandonné leurs enfants, mais pourquoi sont-elles parties en laissant derrière elles leurs enfants ?»
Il y a plus
elles
de suspicion failli... que pour les hommes.
Ah oui, encore plus. Elles ont failli à leur mission première, s'occuper de leur famille.
Quand vous parliez, je voudrais, parce que vous le donnez dans votre livre, rappeler les chiffres, l'importance. Il y a eu 1 million de prisonniers de guerre qui sont rentrés et il y a eu 750 000 travailleurs et travailleuses du STO. Donc c'est des chiffres considérables par rapport aux 160 000 déportés.
Voilà, oui. Et c'est bien pour ça, c'est parce qu'ils étaient minoritaires qu'ils ont été peu entendus en 1945.
Christian.
Oui, on évoquait donc cette souffrance indicible des déportés et qui rentrent. Et en même temps, la difficulté après vous avoir lu, c'est qu'il y a une très très grande diversité en réalité d'attitudes, de comportements chez ceux qui reviennent, chez leurs enfants aussi. On voit la diversité, il y en a qui parlent, il y en a qui ne parlent pas. C'est difficile de modéliser en fait. On a l'impression quand même que chaque vécu est un peu unique.
Chaque vécu est un peu unique, parce que déjà, ils n'ont pas vécu la même chose dans les camps. Hein. Il y a eu des situations très disparates en fonction des camps.
Ils n'ont pas le même âge.
Ils n'ont pas le même âge.
Pas la même situation de départ.
Ils n'ont pas la même situation de famille. Bon, il y a le caractère aussi qui entre en ligne de compte. Mais on peut quand même un petit peu modéliser, je pense. C'est-à-dire que globalement, ils ont peu parlé. Ils ont peu parlé, ils attendent les années 70 et d'être sollicités à la télévision, notamment pour raconter leurs souvenirs de déportation. Il a fallu 30 ans pour que la parole se délie. Mais pendant 30 ans, ils sont restés quand même très silencieux et rares sont ceux qui ont beaucoup parlé. Et ça relève un petit peu de la pathologie. Je cite un exemple dans mon ouvrage. Un monsieur qui éprouvait tout le temps le besoin de parler de la déportation, mais à l'excès, enfin, il ne parlait que de ça, en fait. C'est un petit peu l'exception qui confirme la règle, quand même. Les autres ont peu parlé. Ils se livrent, en réalité, qu'à d'anciens déportés. On sait que les associations d'anciens déportés vont être créées très vite après la Seconde Guerre mondiale, après leur retour. Et donc, ils se livrent à leurs camarades de déportation.
Il y a cette anecdote terrible du gamin qui écoute à la porte, en fait, qui est censé être allé se coucher. Et son père reçoit ses copains de déportation et il raconte des choses. Et le gamin écoute ce qu'il ne devrait pas entendre et découvre une chose qu'il ignore.
Voilà, c'est grâce aux camarades de déportation que les enfants ont découvert le passé de leurs parents. Parce que quand ils se rencontraient entre eux, leur parole était complètement libérée. Il n'y avait aucune censure, aucune retenue. Et donc, ils évoquent les souvenirs les plus durs entre eux. eux, ce qu'ils ne se permettent jamais à l'extérieur, et pas avec leurs enfants.
Le choc n'en est que plus grand pour les enfants.
Il y en a qui se sont dit, très perturbés après avoir écouté des anecdotes qu'ils n'imaginaient même pas, puisque tout dépasse l'entendement.
Pendant ces banquets, parce que c'était des banquets, que les enfants racontent, c'est-à-dire que les anciens camarades de camp se retrouvent. Et bien sûr, on mange très bien et on boit beaucoup et on raconte des horreurs, y compris en riant. Et c'est le seul moment où cette parole peut sortir, peut s'exprimer.
Oui, ça a frappé beaucoup les enfants aussi. Lors de ces banquets, là, comme vous dites, on rattrapait un peu le temps perdu. On se vengeait en quelque sorte, d'une certaine manière, des nazis. Les nazis qui vous avaient privés de tout, y compris de nourriture, d'eau. Alors là, on se rattrape. On fait des banquets à non plus finir. On boit beaucoup. C'est une revanche sur la vie. Et évidemment, l'alcool aidant... la parole se libère et on raconte tout ce qu'on a vécu de pire à ces anciens camarades déportés qui ont vécu la même chose, donc qui comprennent parfaitement, et le tout sur un ton humoristique. Et alors là, ça donne des scènes qui sont sidérantes pour les enfants, quoi. Enfin, et ils disent tous, mais il n'y a que les déportés qui pouvaient se permettre de raconter ça sur le ton de l'humour, parce que c'était affreux, quoi, ce qu'ils racontaient.
Les enfants, ils découvrent des choses à ce moment-là, donc dans un contexte à la fois festif et terrifiant, et en même temps... Pour certains, il y a une sorte de, je ne sais pas si le mot est correct, jalousie, c'est-à-dire qu'il y a des liens d'une force absolue qui ont été noués entre les déportés. C'est comme une seconde famille, c'est mieux qu'une famille, etc. Et donc ce sentiment à la fois de jalousie et pour les enfants de se sentir exclus de ce cercle.
C'est-à-dire que les enfants n'ont pas besoin d'explications. Quand les déportés se rencontrent, ils se font des grandes embrassades. Et les enfants comprennent sans présentation qu'il s'agit d'un déporté. Alors, il y a un lien effectivement très fort, parce qu'ils se comprennent sans parler. Ils ont vécu la même chose. Et les enfants se sentent exclus de cette relation et quand ils sont petits, ils sont un petit peu jaloux de ce lien parce qu'ils ont l'impression que leurs parents, s'ils ne leur racontent pas tout ce qu'il a vécu, c'est parce qu'ils ne sont pas dignes de leur confiance. En fait, c'est une erreur. C'est parce que les parents ont envie de protéger leurs enfants du pire. Hein, c'est tout. Ils préfèrent leur raconter des histoires positives, des histoires
héroïques.
Héroïques
et édifiantes.
Voilà. Mais ils n'ont pas envie de parler du pire, de ce qu'ils ont vécu. Donc ils le réservent à leurs camarades de déportation. Donc ce n'est pas un manque de confiance, c'est ça. Ils le comprennent quand ils grandissent. Et quand ils grandissent, ils se rendent compte aussi des vertus thérapeutiques de ces réunions entre déportés. Qu'ils ne perçoivent pas quand ils sont petits.
Voilà. Mais du coup, la transmission se fait de façon souvent très, très, très chaotique par des récits qu'on entend et qu'on ne devrait pas entendre, comme on le disait, et puis aussi par ces comportements étonnants. Je pense à cet ancien déporté qui ne peut pas s'empêcher à la fin d'un repas, même au restaurant, de ramasser les miettes et de les mettre dans une petite boîte. Donc là, effectivement, c'est des choses qui relève de modalités très, très singulières de transmission.
Alors ça, les déportés partagent plusieurs points communs au sein de leur famille. Ils ont une angoisse à l'égard du gaspillage alimentaire. Ils sont tous
les enfants
cette
se font engueuler.
Angoisse. Ah oui, ils peuvent être totalement tyranniques à table. C'est-à-dire qu'un déporté à table se reconnaît. Quand il a mangé, son assiette est aussi propre que lorsqu'elle sort du placard. Il ne reste rien au fond de l'assiette. Et les enfants doivent adopter cette habitude, c'est-à-dire que lorsqu'ils finissent leur repas, l'assiette doit être aussi propre qu'au début du repas. Les miettes de pain, alors effectivement, ça c'est un point commun, ils ramassent les miettes de pain. Ils ne peuvent pas tolérer que l'on ne mange pas les miettes de pain. Et les miettes de pain ne peuvent pas rester traînées sur la table. Et ça, c'est parce qu'ils ont tous vu, c'est un autre point commun qu'ils partagent tous, ils ont tous vu des déportés mourir à cause d'un tout petit bout de pain. Ça, c'était leur quotidien dans les camps. Les déportés s'entretuaient pour un bout de pain. Hein. Donc, le pain, oui, c'est sacré. Ils font très attention aux épluchures. Ils peuvent être aussi très tyranniques à l'égard de leur épouse. Les épluchures de légumes doivent être le plus fines fine possible.
On fait une pause musicale. On va écouter « C'était un homme » de Rita Mitsouko. La chanteuse Catherine Ringer évoque son père polonais qui était déporté dans les camps.
Thank you.
Aujourd'hui dans Chercheurs en ville, l'émission de Canal B consacrée à la recherche universitaire, on reçoit Isabelle Le Boulanger, docteur en histoire contemporaine et chercheur au centre de recherche bretonne et celtique de Brest. Victimes de la répression nazie, leurs enfants parlent, c'est le nom de son dernier ouvrage paru aux éditions Cop Braise en 2021. En première partie, il a d'abord été question du retour de la personne déportée dans sa famille et de l'impossibilité à raconter cette expérience, sauf peut-être auprès de camarades de camp. À présent, il va être question du traumatisme légué par la personne déportée à ses enfants, du sens donné à l'histoire de ses parents, parfois marquée par la honte. Bonne écoute.
Isabelle Le Boulanger, c'est quoi tout compte fait être un fils ou une fille de déporté et d'avoir vécu donc son enfance ou son adolescence avec le père ou la mère qui rentre des camps? Est-ce que c'est un héros? Est-ce que c'est une victime? Est-ce que c'est une figure écrasante, paternelle ou maternelle?
Ben incontestablement, le parent qui revient d'un camp est un parent qui a été très traumatisé, qui est polytraumatisé. Le problème, c'est que à leur retour des camps, ils ne bénéficient d'aucun secours, d'aucune sorte. Ils ne voient pas de psychologue. Ça ne se fait pas du tout à l'époque. Et donc, ils restent avec leur traumatisme qu'ils vont essayer de gérer le mieux possible. Mais on se rend compte que le traumatisme demeure et qu'il y a une transmission en partie inconsciente à leurs enfants. Aucun enfant ne sort indemne de cette histoire. Tous portent en eux l'histoire de la déportation. Alors,
De quelle manière? De donner des exemples.
Alors, c'est très différent d'un enfant à l'autre, évidemment. C'est en fonction de l'âge qu'ils ont au retour de leurs parents. Ça dépend aussi si le parent est revenu ou n'est pas revenu. Ça dépend de l'entourage. Si le parent est revenu, est-ce qu'il s'en est sorti? Est-ce qu'il a réussi à se réinsérer à peu près correctement dans la vie ou non? Si le parent n'est pas revenu, comment il a pu faire son deuil? Comment le conjoint restant a pu faire son deuil lui-même? C'est multifactoriel, si vous voulez. Donc, il n'y a pas un parcours type de l'enfant de déporté. Hein. Ça ne peut pas être modélisé du tout.
Ce qui est sûr, c'est que... ils placent tous leur vie sous le signe de cette explication explication très très lourde. Par exemple, cette fille de déportée qui a divorcé plusieurs fois va mettre ses échecs entre guillemets conjugaux en relation avec l'image du père. La tentation, elle est forte de voir dans cette condition d'enfant de déporté, une espèce d'identité un peu totale qui va surdéterminer tout le parcours de vie.
Je me permets de préciser pour les auditeurs et auditrices, la figure du père dans l'exemple que tu viens de donner, c'est une figure héroïque, c'est-à-dire qu'aucun homme n'était à la hauteur de ce père déporté.
Ben, c'est-à-dire que vous avez des enfants effectivement qui ont été complètement écrasés par l'héritage familial. Ils ont énormément de mal à se distancier de l'histoire familiale. Et il y en a qui sont très marqués, effectivement, et ça se voit dans les échecs amoureux, notamment. Plusieurs femmes n'ont pas pu se réaliser, n'ont pas trouvé le conjoint idéal parce qu'elles le comparaient sans cesse à la figure paternelle. Or, le père, comme vous le dites, était le héros. Donc, comment être à la hauteur d'un héros? D'autres vont faire une succession de dépressions au cours de leur vie. Plusieurs ont fait des tentatives de suicide. Donc, on voit qu'ils sont très lourdement marqués par l'histoire parentale. D'autres réussissent quand même à prendre de la distance et font de l'histoire familiale une force. Alors, ils disent que l'exemple du parent a été tellement fort qu'ils ne se sont pas autorisés à la moindre faiblesse. Donc, ils ont dû se montrer forts toute leur vie. Bon, ils y arrivent. Les plus forts y arrivent. Mais vous en avez d'autres qui ne peuvent pas et qui sont complètement écrasés. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. C'est un peu ça.
Quels sont les... Je ne sais pas quel mot employer, les idées, les grandes choses positives de transmises.
Bah, les grandes choses positives, c'est ça, c'est un engagement à ne jamais baisser les bras, à être fort en toutes circonstances, à ne pas se laisser faire devant l'adversité. Ça, ils le disent tous, hein, c'est un peu l'héritage spirituel du parent. Les résistants ont légué aussi un héritage en termes de valeurs républicaines, de solidarité, d'entraide, etc. Hein, donc ça, c'est très fort aussi. Et ils essayent de le véhiculer, de le transmettre à leurs propres enfants. Donc il y a tout un héritage positif, quand même. Mais certains n'arrivent pas à cette transmission parce qu'encore une fois, ils sont trop écrasés. J'ai plusieurs témoins qui m'ont dit « Moi, je m'en suis bien sortie, mais je suis le seul ou la seule de la fratrie. Mes frères et sœurs ont sombré dans la dépression. Certains ont contracté des maladies très jeunes et sont décédés de cette maladie très jeune. Certains ont dû être hospitalisés en psychiatrie, enfin bon, vous avez des témoignages qui sont très forts. Et évidemment, ces témoignages d'enfants qui ont été brisés, on ne peut pas les recueillir. Voilà, ces enfants n'ont pas envie du tout de parler de ça.
Il y a des choses faussement simples de dire dans votre livre, Isabelle Le Boulanger, par exemple. Quand on est enfant ou adolescent, comment dire à son père ou à sa mère déportée, simplement quand on est tombé, on a mal au genou, qu'on a un chagrin d'amour, que parce que bien sûr, il y a pire, il y a nettement plus grave. Donc l'impossibilité de partager ça, et aussi le cercle familial ou des voisins qui renvoient, il faut que tu sois obéissant, il faut un, parce que ton père ou ta mère a vécu des choses tellement dures. Donc ça a été des enfances et des adolescences quand même.
Oui, je parle de déficit d'enfance dans l'ouvrage parce que ce sont des enfants qui n'ont en réalité pas connu de période d'insouciance. Ce sont des enfants qui, tout petits, sont des enfants assez graves, très sérieux, voire tout petits, plutôt tristes, en tout cas mélancoliques. Ils n'ont pas connu du tout la période d'insouciance. Pourquoi ? Mais parce que dès qu'ils ont un petit souci de leur âge, ils s'entendent répondre « Écoute, c'est pas grave, quoi. Ça ira mieux demain, tu vas oublier, pense à autre chose. » Ils ne se sentent pas du tout entendus et ils comprennent très, très tôt que le parent a vécu ce qu'on peut vivre de pire. Donc, eux, ça ne peut pas leur arriver de toute façon. Ils comprennent très tôt aussi la dualité de l'être humain. Ils comprennent très vite que l'être humain a une double face, hein, peut être capable du pire comme du meilleur. Et ça, ils l'intègrent très tôt, beaucoup plus tôt que les autres enfants. Donc, ils sont aussi en décalage à l'école, par exemple, avec leurs petits camarades.
Christian Lebar.
Il y a une modalité de la transmission dont on n'a pas parlé, mais qui est très présente dans le livre, qui est le voyage. On accompagne l'ancien déporté sur les lieux de sa souffrance, dans les camps. Et là, pour les enfants, c'est évidemment une expérience très, très terrible.
Alors, certains parents déportés n'ont jamais voulu retourner en Allemagne. Hein. Là, il y a vraiment deux cas de figure. Soit ils refusent tout contact avec l'Allemagne, hein, donc ils ne remettent plus les pieds en Allemagne, ils ne passent
ou
pas la
Pologne.
Frontière. Oui. Ou alors c'est l'inverse, ils éprouvent le besoin de retourner dans les camps. Alors, quand ils éprouvent le besoin de retourner dans les camps, eh bien, ils emmènent avec eux leurs enfants. Et là, ça donne lieu à des scènes assez traumatisantes, évidemment, pour les enfants. Surtout quand ils sont petits, qu'on ne leur donne aucune explication. Donc, vous en avez qui vont se retrouver dans un camp à l'âge de 7 ou 8 ans. Et qui fait le tour du camp, qui voit des choses horribles, mais qui ne reçoit aucune explication du tout. Mais ils ont quand même le sentiment que c'est un endroit extrêmement sinistre, et ils s'en souviennent toute leur vie. Mais c'est angoissant aussi parce que le parent qui est là, ils se rendent compte qu'il a été enfermé dans ce camp-là, et ils voudraient en savoir plus, mais le parent reste complètement mutique, quoi. Donc, c'est d'être dans un lieu sinistre sans un mot d'explication, là, c'est très, très angoissant pour eux, quoi, évidemment.
Quelque chose aussi qui court dans votre livre, c'est le sentiment de honte des déportés, la honte d'avoir survécu, la honte du survivant. Une des personnes dit « partie à 60 ». Revenu à 28, c'est aussi la honte, exprimée ou pas, inconsciente ou pas, d'avoir fait des choses indignes dans les camps pour survivre. Et l'une des personnes dit la honte de s'être adaptée à l'inhumanité. Et ça, quelle transmission et comment ça peut apparaître vis-à-vis des enfants ?
Alors, la honte concerne, d'après ce que j'ai pu observer, les hommes. Parce que les hommes, dans la société des années 40, devaient être toujours forts, donner une image de puissance, de virilité, être dominateurs. Et lorsqu'ils se trouvent enfermés dans un camp nazi, ils sont complètement niés, humiliés à longueur de temps. Ils sont chosifiés à l'extrême, hein, puisqu'on les dépossède même de leur nom. Ils ne sont plus qu'un numéro matricule qu'ils doivent apprendre par cœur en allemand. Et ils sont soumis à des coups, enfin bon, tout ce qu'on connaît des camps, je ne fais pas le rappel. En tout cas, ils sont réduits à l'état d'esclavage. Et ils ne peuvent rien faire. Contre. Et donc, quand ils reviennent, ils ont un fort sentiment de honte parce qu'ils n'ont pas réussi à résister. Alors, ceux qui ont travaillé dans un commando, un camp annexe du camp, ont pu résister à faible échelle, mais ils ont pu résister en sabotant des pièces, par exemple. Ça, on le sait. Mais ceux qui avaient l'étiquette NN, hein, Nartunnebel, hein, restaient dans le camp central. Sans rien faire. Et donc là, bah, ils se prenaient des coups.
Après la libération, vient le temps de la mémoire et de sa transmission aux générations futures. En 1965, un musée et un mémorial sont inaugurés dans le camp. Une initiative prise par d'anciens survivants. En plus de ces lieux de mémoire, d'anciens déportés viennent aussi témoigner des horreurs de Dachau. Parmi eux, l'accordéoniste et ancien résistant André Verschuren en 1966.
Vous êtes resté combien de temps ?
13 mois à Dachau.
Comment vous avez fait pour tenir ?
On ne sait pas. On ne sait pas.
En 1995, autre témoignage. Pour la première fois depuis sa déportation, un ancien maquisard breton revenait sur les lieux. Des paroles poignantes à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du camp.
Quand il partait à la mort, il nous disait « vivez longtemps » et témoignez pour nous, pour qu'il n'y ait plus jamais de...
Reportage de l'INA, Institut National Audiovisuel, publié en avril 2020. Dachau, de 1933 à 1945, l'horreur du premier camp de concentration nazi, c'est le titre de la vidéo.
On voit aussi au passage qu'un des enjeux pour les enfants, c'est de découvrir non seulement les raisons pour lesquelles les déportés étaient déportés, mais de découvrir comment ils s'est comporté dans les camps. Et voilà, là, toutes les anecdotes, ouais, ouais. Y compris les récits de survivants qui ont rencontré mon père, qui l'ont croisé, etc., et qui peuvent me confirmer que même dans cette situation extrême, il s'est comporté avec dignité, il a fait des actes de sabotage, etc. Ça, c'est très important pour
c'est
les
très
enfants.
Important, et les déportés essayent de relater ces faits-là à leurs enfants, quand il y en a. Mais quelquefois, ils ont été totalement impuissants, ils n'ont pas été en situation de produire un acte un peu digne. Et donc, cela se trouve particulièrement honteux à leur retour. Je me souviens d'une anecdote que me racontait une des descendantes. Elle me disait, mon père, un jour, s'est battu pour une pomme de terre avec un autre déporté. Et il a perdu. Donc, c'est le déporté en face de lui qui a remporté cette pomme de terre, il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il avait perdu. Mais ça, il ne l'a raconté qu'à son épouse. Il ne l'a jamais raconté à ses enfants. Parce que voilà, il a eu honte. On ne veut pas se montrer devant ses enfants en position de faiblesse lorsqu'on est un homme. On a envie d'être un père un peu digne. Voilà, on a une posture d'autorité par rapport à ses enfants. Et se montrer dans cet état d'humiliation, c'est pas ce qu'on souhaite, évidemment. Alors, vous parliez de la culpabilité. C'est vrai qu'ils partagent tous un point commun, c'est la culpabilité d'être revenus, parce que tous savent qu'ils doivent leur retour à la chance. En réalité, la chance concerne tous les parcours de déportés. Il y a eu une part de chance dans tous les parcours. Et donc, quand ils reviennent, ils portent cette forte culpabilité d'être revenus. Et ils sont toujours, par la pensée, en lien avec ceux qui sont restés là-bas.
À l'image de cet homme qui, à chaque fois qu'il y a une fête dans sa famille, commence par faire la fête avec tout le monde, il mange, il boit, il chante, et puis d'un seul coup s'absente et qu'on retrouve...
Et se met dans le noir complet.
Dans l'obscurité.
Dans l'obscurité, parce qu'en fait, il ne peut pas être heureux. Il n'a jamais pu être heureux à son retour, parce que c'est trop dur. Il est tout le temps en pensée avec les camarades qui sont restés là-bas. Donc... Il est heureux 5 minutes pour donner le change par rapport à la famille, lorsqu'il va à un mariage ou une communion ou un baptême. Mais tout de suite, il est repris par ses démons, si je puis dire, et il doit se réfugier dans le silence et se couper de tout le monde. Voilà.
Quand vous parliez du facteur chance et de ces choses infimes, la vie, elle tient à quoi, ces fils? Je crois que dans votre livre, c'est un des parents, Noyan Game, peut-être dans le camp. En fait, les Américains ont libéré le camp, je ne sais plus, admettons, le 29 avril. Et le père de cette personne est mort le 28, oui. la veille... Après 18 mois de déportation.
Mmh. Oui. C'est-à-dire que les nazis avaient déjà quitté le camp.
Voilà.
Ils l'avaient quitté le 27.
Voilà.
Et le père est décédé le 28. Et les Américains sont arrivés le 29. Voilà.
Et aussi, tous ces faits fracassants, les listes, les fameuses listes qu'attendaient toutes les familles. On repère quelqu'un d'encore vivant dans les camps.
Oui.
On alerte la famille, il ou elle est vivant et vivante, et pendant le transport de retour, la personne décède.
Voilà, oui, oui. Donc, on envoie des télégrammes à la famille, un tel va revenir, on a eu confirmation, et puis on attend, le mois de juin 45 est passé, il est toujours là, il est toujours pas là, et puis en juillet ou en août, on apprend qu'il est décédé. Oui, vous avez des cas qui sont... vraiment particulièrement tragique. Vous en avez d'autres qui sont heureux. Je me souviens d'une dame qui me racontait que sa mère avait été placée dans le camp annexe du crématorium en attendant la mort, donc sans nourriture, puisqu'elle savait qu'elle allait y passer. Et puis en fait, il y a eu une erreur dans la liste le SS est venu la chercher en lui disant de repartir, alors qu'elle... elle s'était mise dans l'idée qu'elle allait mourir. Vous en avez une autre qui me racontait que sa mère et sa grand-mère ont été placées aussi dans la salle annexe de la salle de douche. Donc elles allaient être gazées. Elles ont été placées là le vendredi saint. Et le camp donc le vendredi soir, les SS n'avaient pas eu le temps de faire passer tout le monde. Elles savaient qu'elles étaient promises à la mort. Donc on leur a dit, vous attendez là sans nourriture jusqu'à lundi. Sans nourriture et sans eau. Et puis le lundi, le camp a été libéré. Donc elles sont revenues toutes les deux. Il y a des histoires complètement hallucinantes. Ouais.
Comment est-ce que les filles et fils de... D'abord, ils se revendiquent, filles et fils de... Ils le racontent facilement à leur entourage, à leurs amis, à leurs collègues de travail, à leurs voisins.
Facilement, je pense pas du tout. Certains m'ont dit que leurs voisins n'étaient pas du tout au courant de leur passé, hein, par exemple. Ça se sait forcément au niveau de la, au sein de la famille, mais après à l'extérieur très peu, je pense. Hein. Non, ils le revendiquent pas du tout.
Hein. Comment ils ont accueilli votre livre et les témoignages des autres personnes?
Alors, ils m'ont dit être très satisfaits du livre, et ils ont eu un retour qui m'a étonnée encore. C'est-à-dire que tous, individuellement, m'ont dit, ah ben finalement, il y a une sorte de normalité à la souffrance. Tous les enfants déportés ont souffert, et ils ne l'avaient pas réalisé. Or, ils sont tous dans des associations d'anciens déportés. Donc je me suis dit, mais en fait, dans les associations d'anciens déportés, ils ne parlent pas de leurs souffrances, ils parlent de leurs parents. Et encore une fois, ils se mettent complètement derrière le parent. Ils mettent le parent en valeur parce que le parent a résisté, ouais, parce que le parent a ce vécu-là dans les camps.
Il y a un saut d'une génération, c'est-à-dire ils souffrent en fait de l'indicibilité d'une souffrance qui ne peut pas être dite parce qu'elle est inférieure à celle du déporté lui-même, donc ils seraient d'une certaine façon déplacés d'attirer la compassion sur soi puisqu'elle doit aller sur la figure du déporté, et du coup se reproduit à une génération d'écart ce drame dont ont souffert les déportés eux-mêmes, c'est-à-dire l'impossibilité de dire sa souffrance.
Tout à fait.
C'est terrible.
Le traumatisme du parent déporté s'est transmis d'une certaine manière aux enfants. Alors, il est dilué, évidemment, hein, puisqu'ils n'ont pas vécu dans les camps nazis. Il est dilué, ce traumatisme, mais traumatisme il y a quand même. Hein.
Et voilà. En plus du traumatisme, l'interdiction de le dire, quoi. Enfin, l'impossibilité de le dire.
Bah, la difficulté de le dire. Mais enfin, ils sont quand même davantage entendus, je pense, que leurs parents à leur retour en 1945. Mais ça reste une difficulté, ouais, difficulté de la parole.
Vous citez Françoise Dolto, qui disait que ce qui est tu à la première génération, la deuxième le porte dans son corps, on ne sait pas comment.
Oui, il y a une transmission en partie inconsciente par toutes les attitudes qu'ils ont observées chez leurs parents. Les attitudes à table, les dates anniversaires où le parent se réfugie dans le silence parce que la date anniversaire réactive des souvenirs douloureux, l'insensibilité à la mort, on n'en a pas parlé, mais l'insensibilité à la mort, c'est quelque chose qui, évidemment, choque beaucoup les enfants.
Racontez un ou deux exemples.
Bah, c'est-à-dire que les parents déportés ont tellement vécu avec la mort, entourés de morts, qu'à leur retour, ils sont complètement insensibles. Et lorsqu'il y a un mort, ça ne leur fait, si je puis dire, ni chaud ni froid. Sauf qu'on se rend compte quand même que cette insensibilité a des limites parce que lorsqu'il y a un décès d'un enfant dans leur propre famille, là, ils retrouvent une sensibilité. Et on se dit que les nazis n'ont pas réussi dans leur entreprise de déshumanisation puisqu'ils arrivent à retrouver une sensibilité. Mais dans la plupart des cas, ils sont complètement indifférents à la mort parce que ben, ils ont vu, ce que je vous disais au début de l'émission, ils ont vu des milliers de morts. Au cours de leur séjour dans le camp de concentration. Donc, ils ne peuvent pas être sensibles à quelque chose qui leur paraît complètement banal. Ils sont blindés, en réalité.
Isabelle Le Boulanger, on vous remercie infiniment. Je rappelle le titre de votre livre, « Victimes de la répression nazie en Bretagne, leurs enfants parlent, les parents ont été arrêtés, fusillés ou déportés ». C'est un livre qui a été publié aux éditions Cop Braise et qui coûte 21 euros. Merci Isabelle
Merci
Boulanger.
Beaucoup à vous.
Merci Christian Lebar. Merci notre réalisatrice Lucie Louapre. Et à bientôt pour une autre émission de Chercheurs en ville sur Canal B.